Et d'une lutte pour la dignité à l'autre, c'est au procès de la politique migratoire européenne que nous nous rendons maintenant avec toi, Yves.
Oui, vous vous souvenez peut-être des reportages que nous avons fait entendre dans une cérémonie de désenvoûtement de la finance, ou encore dans une messe capitaliste à la gloire des marchés. Et bien, dans la série « Comment raconter autrement les maux du présent », nous avons suivi cette fois le procès de l'Europe des frontières, instruit par le tribunal permanent des peuples. Rien que ça, le tribunal permanent des peuples, qui a été fondé en 79 et qui se réunissait cette semaine à Paris au Centre international de culture populaire, s'appuie sur la Déclaration universelle des droits des peuples et sur tous les instruments du droit international quand les États échouent à protéger les droits fondamentaux, voire les hache même menus. Mais il s'agissait donc pas d'un procès militant, comme on en a vu d'autres, mais plutôt d'un tribunal de conscience, réunissant magistrats, chercheurs, acteurs et témoins pour juger sur pièce les politiques migratoires de l'Europe, leurs coûts humains et politiques pour ceux qui migrent, mais aussi pour nous qui nous barricadons, car les morts à nos frontières ne sont pas qu'une fatalité.
Aujourd'hui, en France, nous avons 95 000 demandes d'asile par an. Ça veut dire une grande ville chaque année.
Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas. Sinon, comment je fais après ?
Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Ce n'est pas possible.
La France n'est plus, ne peut plus être une terre d'immigration nouvelle.
Sinon, comment je fais après ?
Entrée du jury et présentation des membres. Présentation du TTP et du cycle de session sur les migrations.
La salle n'est pas très grande, mais c'est une salle d'audience qui est en train de s'installer pour un tribunal, pour un procès. C'est le procès des politiques migratoires européennes. Au nom de tous ceux qui en sont les victimes, au nom de tous ceux qui payent le prix de leur vie, pour pouvoir essayer d'avoir un avenir meilleur.
C'est au large de la Libye.
C'est l'image qui a marqué cette semaine.
Ces hommes et ces femmes viennent de tomber ou de se jeter à la mer.
Un bateau chavirant en pleine mer, avec des centaines de migrants à bord.
Une scène tristement quotidienne en Méditerranée où au moins 1250 migrants sont morts noyés cette année.
Moi, c'est Gianni Tognoni, je suis médecin et je suis secrétaire général du Tribunal permanent des peuples.
Alors, le Tribunal permanent des peuples, l'audience va bientôt commencer. Est-ce que c'est un tribunal pour rire ? Est-ce que c'est un tribunal fantoche ou c'est une voix qui est écoutée ?
Le tribunal, ça a été un petit peu le premier des tribunaux d'opinion, comme on les appelle, qui définissent d'une façon reconnue maintenant tous les tribunaux qui n'ont pas un mandat étatique institutionnel, mais qui représentent des organisations des peuples qui n'ont pas accès au droit à l'autodétermination.
Et alors là, le sujet qui va être abordé, le procès qui va être fait, ça va être le procès de la politique migratoire européenne. C'est-à-dire une politique de fermeture de l'Europe, globalement, et les informations qu'on a chaque jour, des naufrages, des morts en traversant les Alpes, ou le bouchon à Calais.
Tout le monde reconnaît que c'est une chose incroyable, intolérable, tout le monde, mais personne ne se déclare capable de donner un jugement qui implique une obligation. Alors je crois que c'est un petit peu de faire voir que ça, c'est la priorité aujourd'hui pour mettre en face aux responsabilités réelles. C'est vraiment l'identité de nos démocraties qui est en cause, culturelle et politique.
Ma bonne audience.
Merci.
Ce matin, vous recevez donc un historien spécialiste des questions d'immigration et de citoyenneté.
Bonjour Patrick Veil.
Bonjour.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une circulaire qui permet d'aller contrôler et peut-être de faire partir des gens qui sont dans des centres d'accueil pour personnes qui n'ont plus de quoi se loger. Aucun gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale n'avait osé aller jusque-là.
Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas, sinon comment je fais après ?
Oui, alors je m'appelle Philippe Texier. J'ai été auparavant magistrat en France et j'ai terminé à la Cour de cassation. Je vais présider cette session du Tribunal permanent des peuples qui est international et qui se penche sur de grands et graves problèmes actuels, celui de l'immigration en étant un considérable actuellement.
Et alors qui est-ce qui est mis en procès aujourd'hui ? Ce sont les politiques européennes, les États européens, l'Union européenne vis-à-vis des migrants ?
si on veut, on est là dans un tribunal d'opinion, que je préférerais appeler d'ailleurs un tribunal de conscience.
Un tribunal de conscience.
Oui, qui est un tribunal donc qui n'a pas de force coercitive, qui est composé de juristes, mais pas seulement de juristes, des sociologues, des économistes ou autres. Et d'autre part, des témoins directs, des gens qui ont souffert des politiques actuelles, des familles ou des ONG qui ont essayé de faciliter le passage, par exemple, de la Libye à l'Italie. Donc témoins directs ou indirects. Et puis des juristes qui vont essayer d'analyser les violations possibles au droit national ou au droit international, avec une accusation faite par des avocats du Justi et une défense qui sera assurée par des avocats désignés d'office qui ont eu le courage d'accepter cette défense. Ce qui est,
de défendre l'Union européenne donc, voilà, et ses politiques migratoires.
Ce qui me paraît très bien qu'il y ait une défense. Les politiques ont été convoquées, aussi bien au niveau européen que français. On n'a eu jusqu'à maintenant aucune réponse, ni même écrite, un mot d'excuse si je peux dire. On verra ce que sera la loi qui se prépare sur la migration en France. Je ne suis là-dessus pas très optimiste. S'il vous plaît.
Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas. Sinon, comment je fais après?
Nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session du Tribunal permanent des peuples. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Gus Massia pour une courte présentation.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'être là pour ouvrir cette session de Paris du Tribunal permanent des peuples dans le cycle sur la violation des droits des migrants et des réfugiés et l'impunité liée à ces violations. Un simple point, on n'applaudit pas pendant le tribunal, ce n'est pas un meeting, et d'une certaine manière, on salue le jury quand il rentre et quand il sort. Merci.
Ça c'est moins important. Mais...
La parole est à la défense. Oui, je passe la parole à l'accusation sur ce point. La question. Prochain témoin.
Bien, je vous remercie.
Je laisse maintenant la parole à Britt Brennan, représentant de l'International Institute d'une plateforme européenne sur ce thème du Tribunal des peuples sur la migration.
Ok. Bonjour. I'm Britt Brennan from the Transnational Institute.
Je suis Britt Brennan,
Amsterdam.
Du Transnational Institute d'Amsterdam.
I think all of us in this room are very familiar with the realities that have been generated by.
Je pense que nous sommes ici tous conscients des conséquences des 30 ou 40 dernières années de capitalisme néolibéral.
This era has also generated a very polarized, the lack of a word, but it seems to
pendant
be a very
période,
polarized global
le monde s'est polarisé
apartheid,
en une sorte d'apartheid global
of sites with rights, territories with rights,
entre les territoires avec des droits et les territoires sans droits.
This policy of necropolitics,
cette véritable nécropolitique
has resulted in turning the Mediterranean
a transformé la Méditerranée
the greatest mass grave
en une des
history.
Plus grandes fosses communes de l'histoire.
It is not a crime to move.
Se déplacer n'est pas un crime.
And it certainly is not a crime to survive.
Et vouloir survivre n'est certainement pas un crime.
So we are here in Paris.
Et nous voici donc réunis
we
à Paris,
salute the permanent
où nous saluons le Tribunal permanent des
as
peuples
a space of a new convergence
comme un espace de convergence pour une nouvelle Europe.
And as migrant and refugees like to remind us,
et comme les migrants et les réfugiés nous le rappellent souvent, observons la réalité des politiques de l'Union européenne et de la France.
From the perspective of
migrants du point de vue des migrants et réfugiés
say,
qui nous disent
look with us and not at us.
Plutôt que de nous regarder, regardons ensemble.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Je rappelle qu'il avait été annoncé qu'on ne devait okay. pas applaudir. Mais des fois que l'enthousiasme vous incite ainsi la lecture de l'acte d'accusation.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres du tribunal, les barrières que les politiques migratoires européennes et nationales fondées sur la fermeture des frontières dressent devant les migrants ne menacent pas seulement leur liberté de circulation. Comme on va le démontrer, cette politique est donc directement à l'origine de nombreuses violations de droits aussi fondamentaux que la liberté individuelle, le droit d'asile, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, et même le droit à la vie. Face à ces défaillances, il appartient au Tribunal des peuples, en se fondant sur les éléments d'information disponibles et en procédant à leur analyse, de mettre ses responsabilités en évidence.
Je suis Danielle Lochac et membre du JISTI. C'est le JISTI qui a été chargé de rédiger l'acte d'accusation.
Voilà, vous vous trouvez parmi les rangs des accusateurs et vous avez participé à la rédaction de ces 20, je crois 25 pages de chef d'accusation.
C'est-à-dire que la thèse soutenue par l'accusation, c'est que la politique de l'Union européenne entraîne nécessairement la violation de toute une série de droits fondamentaux, aussi bien le droit à la vie que le droit d'être secouru en mer, le droit d'asile, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Et effectivement, l'acte d'accusation énonce un certain nombre d'exemples, mais qui seront étayés par des témoignages tout au long de la session, avec cette solennité particulière qu'entraîne cette idée de tribunal. Ce n'est pas tout à fait un tribunal comme les autres, bien entendu, mais notre idée, c'est qu'il y aurait matière à saisir toute une série de juridictions nationales ou internationales de toutes ces violations des droits humains.
Et dernier mot au sujet de la politique migratoire en France, qui doit bientôt être développée par le nouveau gouvernement, qui est ni droite ni gauche, rappelons-le.
Oui, là, je crois qu'elle est tout à fait à droite et de plus en plus à droite.
Si bien qu'aujourd'hui, Marine Le Pen félicite M. Collomb et M. Collomb se plaint de passer pour un facho dans les réseaux sociaux.
Voilà, oui, ben voilà à peu près. La droite dit que personne n'avait osé aller si loin et la gauche n'a que ses yeux pour pleurer pour l'instant.
C'est donc, sur l'ensemble de ces faits et au regard de l'ensemble des documents et des auditions auxquelles il sera procédé au cours de l'audience, que le tribunal permanent des peuples sera appelé à se prononcer à l'issue de cette première session.
Merci. Bien, est-ce que à ce stade, la défense souhaite s'exprimer ou est-ce qu'elle se réserve pour sa plaidoirie finale ?
Je me réserve pour ma plaidoirie finale.
Bien, je m'en doutais.
D'accord.
Bien. Nous allons donc faire une courte pause pour avant d'entendre les témoignages.
Un quart d'heure.
Vous appelez comment ?
Moi, c'est Meïté. Je dois passer aux environs de 18h15. Voilà, c'est un témoignage de mon parcours migratoire, de mon pays jusqu'en France.
Vous venez d'où ?
Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis quitté là-bas fin 2012, novembre.
Pourquoi précisément ?
Ouais, j'étais militaire. Suite à la crise post-électorale 2011, après le combat, la chasse aux sorcières, ça continuait toujours. Donc j'ai décidé de prendre la tangente. Je me suis rendu au Niger. J'étais à Gadez, la dernière grande ville avant d'attaquer les 3000 km du Sahara.
Donc, à pied, en camion ?
En camion. On est chargé derrière les 4x4, 33 personnes. Et c'est du sable, donc le chauffeur il va à vive allure. Parfois, il y a des gens qui tombent. Donc, on fait pratiquement une semaine dans le désert avant d'atteindre l'enfer libyen. C'est en allant à Zabrata que nous sommes tombés dans une embuscade et on a été fait prisonniers là-bas pendant au moins 2 mois.
Ça, c'était en Libye, vous avez été capturé par...
Asma Boy, c'était un groupe, les Asma Boy.
Donc, c'est quoi, c'est une sorte de milice c'est
oui, en Libye, il y a plusieurs milices en Libye.
Vous vous êtes retrouvé en prison
Oui, en prison, et on était 18 personnes, 16 garçons, 2 filles. Et ils abusaient des filles tout le temps et nous, on était en genoux comme ça. Tu peux rien faire aussi. Nous, les hommes, bras valides, on partait travailler dans les champs d'épices. C'est nos ravisseurs qui encaissaient l'argent. Et nous, on faisait le travail. Moi, j'ai été témoin oculaire de la vente d'une fille burkinabé.
Vous avez vu ça
ouais,
là-bas ?
Ouais, c'est de l'esclavage.
Migrants qui n'avaient pas pu embarquer étaient retenus de force par des trafiquants qui les avaient transformés en esclaves pour les vendre plus offrant.
Un sordide trafic d'êtres humains dont le destin va basculer pour quelques centaines d'euros.
Je prends juste un café. Vous en voulez un ?
Des images qui ont choqué depuis elles ont fait le tour du monde.
Le vendredi 4 novembre, s'il y a bonne mémoire, on a embarqué. Peut-être 160, je ne me rappelle plus trop, mais...
Sur un zodiaque ?
Sur un zodiaque de 16 mètres. Par la grâce de Dieu, on a pu arriver sur l'eau internationale. Bon, malheureusement, Là-bas, il y a eu assez de morts parce qu'au finish, le bateau a craqué. Mais moi, j'essaie de plonger. J'ai plongé jusqu'au gros bateau puisque les sauveteurs viennent y jeter les gilets.
Leur embarcation surchargée de près de 500 migrants est en train de chavirer. Des appels au secours désespérés. Il y a aussi de nombreux enfants.
Paris, il y a la porte de la chapelle, le camp Hidalgo.
Non, la bulle, c'est ça?
Voilà, la bulle. Ils nous ont soignés. En tout cas, là-bas, ça a été bien. Bon, après, on est parti, il y a la préfecture pour la vérification d'empreintes. Mais malheureusement, ils m'ont menti. On dit, je suis dubliné. Dubliné, ça veut dire, j'ai pris une prise d'empreinte déjà en Italie, par le premier pays européen où j'ai rentré. Donc, on dit, je suis dubliné, Italie. Et donc, moi, j'ai été transféré au Prada d'Apoigny. Apoigny, c'est à 6 km d'Auxerre, dans un Formule 1. Et là-bas, c'est un environnement carcéral. C'est la prison. On est les voisins directs de la préfecture, parce que ceux qui sont en procédure normale, ils vont dans les CADA.
Les centres d'accueil et demandeurs pour les demandeurs d'asile.
Le Prada, c'est un nouveau système. Chaque mercredi, je dois aller signer à la gendarmerie, jusqu'au jour où ils vont préparer mon billet d'avion, tout pour que j'y retourne. Mais moi, je maîtrise tout. Je suis le roi de l'horloge, comme le président Macron. Je joue avec le temps.
Alors aujourd'hui, la situation là pour vous, c'est...
Bon, normalement, je dois recevoir une lettre de requalification en procédure normale. Et on te donne un cahier. Tu as 21 jours pour raconter ton histoire. Pourquoi est-ce que tu as quitté ton pays? Pourquoi est-ce que tu as peur d'y retourner? En un mot, ton histoire. Et on fait partie ça à l'OFRA. Et tu attends, l'OFRA va te programmer.
L'OFRA, c'est donc l'Office français pour les réfugiés.
Oui, c'est ça.
Et là, on croise les doigts pour avoir
On croise les doigts. J'espère que je vais vous inviter pour fêter ça.
S'il vous plaît, nous commençons maintenant l'audition des témoins avec les questions de l'accusation, de la défense et du jury.
Merci. Nous allons donc reprendre nos travaux. Je vais tout de suite passer la parole au premier témoin.
Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui les arrêtera. Ce n'est pas ça qui les arrêtera. Traverser à la nage, les détroits,
ce n'est pas ça qui les arrêtera.
Les miradors de Ceuta,
ce n'est pas ça qui les arrêtera.
Les barbelés de Melilla,
ce n'est pas ça qui les arrêtera.
Des murailles hautes comme ça,
ce n'est pas ça qui les arrêtera.
Michounina, Nicana inébile.
Non è questo no, non è questo no che li fermerà. Non è questo no, non è questo no che li fermerà. Tre continenti ad un unico viaggio, foreste deserti da attraversare, il sole che brucia, il sonno, la fame, non è questo no che li può fermare.
Je vais tout de suite passer la parole.
Donc Damien Carême, je suis maire de la ville de Grande-Synthe depuis 2001.
Et vous faites partie de cette association des maires hospitaliers, puisque vous avez fait beaucoup de bruit au niveau national. À mesure que Calais devenait source de tension, vous avez pris le parti inverse d'essayer de trouver des solutions, au moins temporaires, pour ces flux de migrants qui essayent de passer en Angleterre.
On a trouvé à l'hiver 2015 et début 2016 une solution pour faire face à l'urgence humanitaire à laquelle nous étions confrontés. On avait 2500 personnes présentes sur le territoire de la commune qui vivaient dans un champ de boue, dans des tentes avec des bras zéro et donc des conditions de vie complètement inhumaines. Il y avait 300 femmes, 300 enfants parmi ces populations. Il était impossible que je laisse les gens vivre dans ces conditions indignes. Et donc on a fait, avec Médecins Sans Frontières et l'ensemble des associations, on a monté le projet de ce lieu d'accueil humanitaire sur la commune et on l'a ouvert parce que à l'époque il n'y avait pas de politique de l'État pour venir faire quelque chose et trouver des solutions, donc j'étais confronté à devoir le faire moi-même, ce qui n'est pas normalement du ressort d'un élu local. Et donc il faut multiplier les places d'accueil et c'est à l'État de prendre ses responsabilités.
Or, l'État ne prend pas exactement ce sens-là. C'est un des points que vous avez voulu marquer dans ce témoignage que vous avez donné devant ce tribunal.
Oui, aujourd'hui, je n'entends parler que de répression, de reconduite, de mise en place dans des centres de rétention avant d'aller même dans les centres d'accueil d'urgence pour aller pister les personnes. Et je trouve ça honteux. Enfin, c'est scandaleux aujourd'hui. Moi, je suis outré de ces décisions-là. Aujourd'hui, on voit bien que quand on explique à la population, elle comprend. Et quand elle a les clés de compréhension, en fait, voilà, elle est d'accord avec les discours parce qu'elle compatit. On sait bien d'où on vient tous, et donc quelque part on a tous des origines étrangères à un moment donné, et que donc ce pays s'est fait avec ça, et que ça sert à rien de lutter en renforçant les frontières, ça continuera à passer. Il faut qu'on s'apprête à mener de vraies politiques d'accueil.
Alors à ça, ce qui est rétorqué depuis quelques décennies maintenant par les politiques de gauche comme de droite, c'est deux phrases clés. Vous allez créer un appel d'air si vous les aidez, et deux, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, dixit Michel Rocard, souvent amputé de sa faim, qui disait qu'elle devait cependant apporter sa contribution et sa part.
Voilà, alors on est loin d'accueillir toute la misère du monde. On voit bien que la misère du monde, elle est accueillie dans des pays qui sont en misère eux aussi, des pays limitrophes, des pays qui sont fuis. Donc quand on regarde d'un peu plus près les chiffres, on voit bien qu'on accueille en Europe que 0,4% de la population européenne tous les ans, donc c'est quantité négligeable. Quant à l'appel d'air, sur mon territoire, sur ma commune, comme à Calais d'ailleurs, c'est vraiment une vision de l'esprit. C'est pour vraiment un prétexte pour ne pas faire. Parce que l'appel d'air, il s'appelle Angleterre, tout simplement. Ces gens qui sont là, ils veulent aller en Angleterre. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne va pas bouger l'Angleterre du jour au lendemain.
Merci. Merci en tout cas, monsieur le maire, de votre témoignage. Nous allons en suspendre nos travaux et nous les reprendrons à 14h30.
La France est un pays qui est généreux, qui fait respecter le droit d'asile et l'accueil de ceux qui sont fragiles. Mais on ne peut pas accueillir, on prend notre part, mais on ne peut pas prendre toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard.
Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, ce n'est pas possible.
La France n'est plus, ne peut plus être une terre d'immigration nouvelle.
Et des précisions très claires sur l'immigration clandestine.
Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique, mais pas plus.
Je l'ai déjà dit et je le réaffirme, quelque généreux qu'on soit, nous ne pouvons accueillir toute la misère.
On ne peut pas accepter, on ne va pas prendre toute la misère du monde, encore faut-il s'y efforcer.
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre d'accueillir toutes ces populations qui sont souvent des damnés de la terre. Mais la France, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, ne peut pas accueillir, comme l'avait dit un ancien Premier ministre, toute la misère du monde et de l'Europe. Elle prend sa part.
Bien, Manuel, vous savez que vous avez un supporter.
Je fais bien le mot qu'avait utilisé Michel Rocard il y a quelques années s'agissant de la France. L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
C'est vrai qu'elle ne le peut pas, mais la réalité, c'est qu'elle ne le fait pas et qu'elle est même très loin de le faire. Trois pays sont devenus les principales terres d'accueil. C'est la Turquie, le Pakistan et le Liban qui ont recueilli des millions de personnes. D'ailleurs, 9 réfugiés sur 10 dans le monde se retrouvent dans des pays considérés comme moins développés et pas dans les pays riches. C'est ça qu'il faut mettre en parallèle avec les 100, 200 ou 300 000 migrants dont il est question en Europe et qui représentent, si je puis dire, une goutte d'eau par rapport aux 500 millions d'Européens.
Voilà, les audiences de ce procès de l'Europe des frontières se sont terminées hier soir après des dizaines d'heures de témoignages, la parole à l'accusation et les plaidoiries de la défense. Et si vous voulez connaître la suite, le verdict sera rendu dimanche, demain, à 11h, à l'occasion de la clôture du festival, du Moussem Festival de l'immigration et de la tricontinentale à la mairie de Gennevilliers. En attendant, un conseil de lecture pour aller plus loin, écrit par Claire Rodier, directrice du GISTI et ancienne cofondatrice du réseau Migre Europe, Xénophobie Business, à quoi servent les contrôles migratoires, aux éditions La Découverte.